Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 10 décembre 2019. Voici les grands titres de cette édition. À l'occasion de la journée internationale dédiée aux droits de l'homme, célébrée le 10 décembre de chaque année, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme se réjouit du traitement judiciaire des cas de violation des droits humains. Même si tout n'est pas rose, le président de cette commission déclare que la situation des droits de l'homme s'est nettement améliorée au Burundi. Et la société chinoise Mango Tree envisage la construction au Burundi d'un bateau qui pourra transporter 300 passagers et 2000 tonnes de marchandises. Annonce faite par le conseiller technique du ministère des Travaux publics lors d'une conférence de presse ce mardi. Et dans la suite de la chronique santé sur la tendinite, cette maladie qui touche les tendons, dont les épaules et les genoux, aujourd'hui, l'on parle de son traitement avec le rhumatologue Alexine Sinzakaraï. Voilà pour le sommaire.
Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel.
La société chinoise Mango Tree envisage la construction au Burundi d'un bateau qui pourra transporter 300 passagers et 2000 tonnes de marchandises. Le coût du transport des biens et des personnes sera sensiblement réduit, comme l'a souligné le conseiller technique du ministère des Travaux publics lors d'une conférence de presse ce mardi. Édouard Nyandoui ajoute que beaucoup de Burundais vont y trouver de l'emploi du fait que ce ferry sera construit par les Burundais eux-mêmes.
Pour développer son économie, le Burundi a opté pour développer les différents corridors de transport. Il y a le corridor nord, il y a le corridor central, il y a le corridor sud à travers le lac Tanganyika. Alors dans le cas du développement du transport intégré sur le lac Tanganyika, le Burundi a signé le 14 mars 2019 un mémorandum d'entente avec la société Mango Tree Group. Ce mémorandum vise à construire un bateau de 2000 tonnes et 300 passagers. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un ferryboat. C'est un bateau mixte pour le transport de personnes et de marchandises. L'autre composant du projet, c'est le renforcement des capacités du personnel navigant et la construction d'un centre de formation pour la navigation au niveau du lac Tanganyika. L'un des engagements du gouvernement, c'était de disponibiliser un terrain pour la construction de ce bateau. Le processus est en cours. Il y a quelques sites qui ont été déjà identifiés. Je pense qu'ils seront mis à la disposition de la société.
Édouard Nyandoui, c'est le conseiller technique du ministère des Travaux publics. Économie toujours, l'Agence pour la promotion des investissements au Burundi compte coopérer avec l'organisation TCX, Currency Exchange Funds, pour pallier au problème de devises qui empêche aux investisseurs étrangers d'opérer au Burundi. Jonas Enrico Luini explique que cette organisation basée à Amsterdam assure le risque de la dévaluation de la monnaie chez l'investisseur et se fait rembourser par les banques partenaires. Il s'exprimait lors d'un forum sur l'investissement organisé à Bujumbura par l'API en collaboration avec TCX. C'est dans le cadre de l'amélioration du secteur financier au Burundi. Écoutons plutôt Jonas Enrico Luini au micro de Fidèle Antoine Sabuman.
CX a comme mission de couvrir le risque d'échange dans des pays où le secteur bancaire n'offre pas ce type de service. En fait, nous, on travaille dans tous les marchés où le secteur bancaire international n'offre pas ce type de service. Notre mission, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est d'offrir un service pour couvrir ces risques d'échange qui empêchent les investissements dans le pays. Le risque d'échange est sur plusieurs devises et un des risques les plus importants pour un investisseur qui souhaite rentrer dans un pays. Avec nos groupes d'investisseurs, on permet à ces institutions de rentrer, d'investir dans le pays en le faisant en devise locale. Nous, on absorbe ce risque. Au Burundi, en fait, du coup, on a été obligé à développer un modèle macroéconomique pour offrir ce type de prix, réflectif du risque pour la devise. On souhaite, dans notre mission, que ce soit le premier pas pour qu'on ouvre le secteur financier burundais à ce type de produit. Progressivement dans les temps, on souhaite que les banques locales, comme les banques internationales, développent le même type de service et qu'ils l'offrent à tout type de clients. On souhaite être le premier dans le pays pour qu'après, le développement du pays fasse qu'il n'y a plus besoin de nous à moyen terme ou à long terme.
Et dans la suite de ce journal, je vous l'avais dit dans les titres, la situation des droits de l'homme s'est nettement améliorée au Burundi malgré quelques perturbations. Déclaration ce mardi du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme à l'occasion de la journée mondiale dédiée aux droits de l'homme. Quant aux violations des droits humains rapportées, Sixte Vignini Muraba, président de cette commission, se réjouit du traitement judiciaire de ces cas. Elinibel Nibigira.
Parmi les facteurs de perturbation de la situation des droits de l'homme au Burundi, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme évoque le chômage, les cas de violation des droits des enfants par les éducateurs alors qu'ils sont chargés de les faire respecter, ainsi que des attaques perpétrées contre le Burundi. Sixte Vinini Muraba donne l'exemple de la récente attaque à Cibitoke qui serait venue du Rwanda voisin.
Quelques perturbations orchestrées par les groupes armés venus des pays limitrophes, à savoir la RDC et le Rwanda, mena à des actes portant atteinte aux droits de l'homme. La plus récente étant l'attaque de la position des militaires burundais dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019 par un groupe armé en provenance du Rwanda en commune Mabayi de la province Cibitoke.
Un autre fait que condamne la Commission indépendante des droits humains, c'est le trafic humain effectué vers certains pays. Sixte Vinini Muraba demande que les auteurs de ces forfaits soient traduits en justice.
La Commission nationale indépendante des droits de l'homme demeure par ailleurs préoccupée par la situation de trafic des êtres humains, notamment les informations concernant les souffrances endurées par les victimes du trafic qui se trouveraient déjà dans certains pays du Golfe.
À la question des violations des droits de l'homme pour des raisons politiques qui seraient commises sur le territoire burundais, le patron de la CNIDH avance que les instances judiciaires...
En ce qui est spécifique pour les droits de l'homme, notons qu'on parle de droits de l'homme quand il s'agit d'un agent étatique qui a usé de son pouvoir pour ne pas abuser telle ou telle autre personne. Et qu'il y ait abus, ça arrive et ça arrivera toujours. Là où on se concentre, c'est de savoir si cet abus a été puni. Donc on encourage la justice à pouvoir répondre chaque fois de besoin afin de bien trancher.
Se penche régulièrement sur ces cas. La CNIDH salue les initiatives du gouvernement pour faire respecter les droits de l'homme au Burundi, mais sollicite la contribution de tous les intervenants dans ce secteur en vue de la consolidation des droits humains.
Merci Elie Nibel Niwigira. Puisqu'on parle des droits de l'homme, parlons aussi de cette campagne de 16 jours d'activisme pour mettre fin aux violences faites aux femmes, qui est une campagne annuelle qui débute le 25 novembre pour se terminer le 10 décembre, comme aujourd'hui. Lancée en 1991, cette campagne est organisée annuellement par le Center for Women's Global Leadership en vue de la prévention et de l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Le thème qui était retenu cette année, c'était « La génération égalité s'oppose au viol, oranger le monde ». Vestine Boutoui pour les détails.
Lancée en 1991 par des activistes au Women's Global Leadership Institute, 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes est organisé chaque année par le Center for Women's Global Leadership et les fait office de stratégie d'organisation pour les particuliers et les organisations du monde entier en vue de la promotion et de la prévention et l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. En soutien à cette initiative de la société civile, la campagne du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, tous unis d'ici à 2030 pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, campagne tous unis préconise la prise de mesures à l'échelle mondiale pour sensibiliser, encourager les efforts de plaidoyer et partager les connaissances et les innovations. Dans cette année, la campagne tous unis a marqué le début des 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes du 25 novembre au 10 de ce mois, sous le thème « Oranger le monde, la génération égalité s'oppose au viol ». Bien que les noms, les époques et les contextes ne sont pas les mêmes, les femmes et les filles sont universellement touchées par le viol, ainsi que la violence et les abus sexuels, tant en tas de paix que de guerre. Comme nous le trouvons sur le site de l'ONU Femmes, le viol est ancré dans un ensemble complexe de croyances et de relations, de pouvoirs favorisant l'omniprésence et la normalisation de la violence sexuelle. Il est bien connu que l'obtention des chiffres exacts s'agissant du viol et des agressions sexuelles est très difficile en raison de la liberté et de l'impunité dont jouissent les agresseurs, de la stigmatisation des victimes et de leur silence. Au cours des dernières années, grâce à des campagnes telles que Me Too, Time's Up, les voix des victimes et des activistes ont mis en lumière la question de la violence sexuelle et ont atteint le volume qu'il est désormais impossible d'ignorer ou de réduire au silence. C'est pourquoi, dans le cadre de la campagne de l'ONU Femmes Génération Égalité, qui marque le 25e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing la campagne Tous Unis appelle toute personne, quelle que soit son origine, à s'informer, à lutter contre l'omniprésence de la lutte du viol. Les 16 jours d'activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes débutent habituellement le 25 novembre avec la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et s'achève le 10 décembre avec la Journée des droits de l'homme.
Vous n'avez pas Isanganilo ? Vous ratez l'essentiel.
Les décisions contradictoires de la Commission nationale d'intérêt et autres biens, CNTB, ne rassurent pas ceux qui cherchent à être rétablis dans leurs droits. Certains rapatriés de la commune et province Rumonge qui le disent prennent pour référence une décision de rétablir un rapatrié de Rumonge annulée quelques jours après son exécution, consécutivement à un recours. Le porte-parole de la CNTB informe que cette commission a le droit de revenir sur sa décision en cas de tierce opposition. Jean-Pierre Bissako.
L'annulation de l'exécution d'une décision de la Commission nationale des terres et autres biens concernant la remise à un rapatrié d'une propriété foncière en commune Rumonge, une annulation tombée 12 jours après la remise de cette propriété, est à l'origine de ces lamentations chez certains rapatriés de la commune Rumonge, la qualifiant de dilatoire. Pour eux, c'est inconcevable que la CNTB saisit un recours, sorte une décision exécuté une année après sa prise pour être suspendu 12 jours après. Ces rapatriés disent que le mieux serait que les décisions sorties après recours soient des décisions bien mûries et définitives. Dieudonné Mbonima, porte-parole de la CNTB, dit que cette commission peut suspendre l'exécution de la décision prise en cas de tierce opposition en vertu de l'article 22 régissant la CNTB. Pour lui, la partie ayant obtenu gain de cause n'a pas à trop s'inquiéter car cette tierce opposition doit être vidée dans un délai de 60 jours. Jean-Pierre Misago de Purumongue, Radio Isanganiro.
Merci Jean-Pierre Misago. Soutenir la population qui pratique l'apiculture moderne dans le parc national de la Rouvouvou est l'une des solutions pour préserver ce patrimoine naturel. C'est ce que déclare un expert de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, OBPE en sigle. Il explique que la population ne peut pas laisser ceux qui détruisent l'environnement alors qu'ils ont des intérêts dans ce parc. Et du côté des apiculteurs, c'est la satisfaction. Ils ont promis de renforcer la sensibilisation pour lutter ensemble contre le braconnage et les feux de brousse. Fidèle d'Antoine.
Ce sont les apiculteurs qui exercent leurs activités dans le parc national de la Rouvouvou. Ces apiculteurs font savoir qu'ils ont pris conscience de la préservation de ce patrimoine national. Arkade Butoyi est un de ces apiculteurs.
On ne voyait pas la valeur du parc, on y allait pour le braconnage et déboiser.
Il contribue également dans la lutte contre le braconnage, comme l'indique Kanyaro Chati Balthazar, un autre apiculteur.
Beaucoup sont venus remettre le matériel de braconnage grâce à la sensibilisation. Nous traquons les récidivistes avec leurs pièges, que le parc nous aide et en revanche nous contribuons pour la sensibilisation. Et ça marche bien.
La récolte du miel est satisfaisante. Malgré un animal sauvage appelé sambge qui détruit les riches, selon toujours Kanyarushati.
Un animal qu'on appelle sambwe produit un gaz nocif dans le riche et les abeilles deviennent inconscientes et profitent pour retirer le miel.
Fofo Alphonse, un expert environnementaliste de l'Office burundais pour la protection de l'environnement, affirme que ces apiculteurs vont contribuer dans la lutte contre l'effet de brousse.
Ils y allaient légalement, mais nous avons essayé de les accompagner dans les activités de développement et nous avons pensé à leur donner des ruches modernes pour diminuer l'effet de brousse et nous sommes optimistes.
Marc Bakundinwari, directeur du parc national de Rouvouvou, affirme que si ce parc est protégé, ça va profiter au pays et à la population en général.
Si on pouvait travailler en synergie pour la protection, les touristes viendraient en grand nombre et le tourisme profite aussi à la population.
Le parc est partagé par 4 provinces et par 8 communes. Sa superficie est 50 800 hectares. La longueur de son territoire est de 62 km, tandis que sa largeur varie entre 5 et 13 km.
Fidèle Nsabimana. Et en bref, avant la chronique santé sur la tendinite, je rappelle, on va parler de son traitement avec Dr Alexis Nzakaraye. Un enfant de la colline Morinda, zone Mhinga, en commune Bugizo, a été emporté par la rivière Muhazi, reliant les collines Morinda et Mazuru, débordées par les fortes pluies tombées ce lundi dans cette localité. Après tout l'après-midi que la population qui vit près du lieu de l'incident a recherché sans succès le corps de la victime, les sources sur place indiquent qu'il a été récupéré le matin de ce mardi. La vallée de la rivière Kaniga qui traverse la commune Ndava en province Mwaro et ces jours-ci inondée par l'eau qui déborde cette rivière et les champs de maïs et de l'usine qui s'y trouvent sont détruits. Ceux qui ont des cultures disent qu'ils ne peuvent pas connaître les limites de leurs champs et les pluies intenses qui tombent sur les bassins versants qui alimentent cette rivière sont à la base de cette situation selon certains habitants de cette commune. Et le centre de santé Rwanda, situé sur la colline Morinda, zone Mhinga, en commune Bugizo, offre des services de santé au public depuis une semaine. Un ouf de soulagement pour la population riveraine à ce centre de santé de Rwanda, qui se plaignait de faire de longs trajets pour les soins de santé. Ses habitants indiquent qu'actuellement, ils ont des facilités et saluent l'initiative de l'État et de toute autre personne pour sa contribution jusqu'à cette étape satisfaisante.
Radio Isanganiro, chronique santé.
Je l'avais dit dans la suite de la chronique santé sur la tendinite, cette maladie qui touche les tendons dans les épaules et les genoux. Aujourd'hui, l'on parle de son traitement. Le rhumatologue Alexis Nzakaraye explique que cette maladie est traitée de différentes manières. Il précise qu'une échographie est recommandée chez les personnes présentant les symptômes de la tendinite. Mais même si elle guérit facilement, Dr Nzakaraye prévient toutefois que quand elle est maltraitée, la tendinite a des conséquences sur la santé allant jusqu'à la rupture d'un tendon. Ornella Mucho.
Le diagnostic de tendinite n'est pas nécessaire selon le rhumatologue Alexis Nzakaraye. Toutefois, les examens peuvent être faits lorsque les symptômes suscitent le doute.
Pour nous, le diagnostic est simple et clinique par la vue du médecin et par la mobilisation de l'articulation. Dans le doute, on peut demander des examens tels qu'une échographie pour visualiser cette insertion du tendon. Si on peut finir radio, mais ça dépend du stade d'évolution de la tendinite.
Selon toujours ce spécialiste, reposer l'articulation dès la sensation de douleur, c'est le premier traitement recommandé.
Quand la tendinite est déjà là, il faut d'abord faire recours aux petits moyens, c'est-à-dire reposer l'articulation. Si c'est le membre supérieur, arrêter momentanément d'utiliser le membre supérieur. Si c'est le membre inférieur, s'arrêter, diminuer la marche ou arrêter la course momentanément, ça peut faire disparaître la douleur.
Lorsque la douleur persiste, différents médicaments sont prescrits aux patients.
Après, si la douleur continue, on conseille d'appliquer des choses froides. La glace, par exemple, si on en dispose au niveau de l'articulation. Mais je précise, appliquer la glace, mais ne pas dépasser 15 minutes. Au maximum, 20 minutes, sinon ça peut brûler la peau à l'endroit où on a appliqué. Et quand la douleur a persisté, il faut aller consulter un médecin qui vous prescrira des médicaments pour calmer cette douleur. Mais la consultation du médecin est même obligatoire au début parce que c'est lui qui va diagnostiquer cette tendinite pour éliminer une autre éventuelle maladie qui peut ne pas être une tendinite.
Docteur Alexis Nzakaraye révèle qu'il peut arriver à la rupture de l'articulation une fois que le patient se soigne tardivement.
Quand le patient n'a pas eu les premiers soins, surtout préventifs ou pour arrêter l'aggravation, la maladie risque de se compliquer. J'ai dit que la tendinite, c'est une souffrance du tendon à l'endroit de l'insertion à l'os, le tendon risque de se déchirer. Et quand le tendon se déchire, ce n'est plus le traitement médical, c'est une opération. Et l'opération va immobiliser le patient pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc, c'est un stade où on préfère éviter, ne pas arriver à ce stade. Tu dois être immobilisé pour attendre la cicatrisation du tendon. Ça vous prend beaucoup de temps. Et là, ça veut dire que vous arrêtez toute activité. C'est-à-dire que vous ne serez pas utile pendant tout ce moment. Et ça a un impact socio-économique considérable.
Le rhumatologue Alexis Nzakaraye conseille les gens à ne pas exagérer dans la sollicitation de l'une ou l'autre articulation.
Merci Ornella Mucho, merci Dr Alexis Nzakaraye pour ces éclairages sur le traitement de la tendinite. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal qui a été mis en onde par Alphonse Koubguimana. Au micro Jean Bosco Ndouimana, un bon après-midi.